expliquer avec des mots de ce monde qu'un bateau est parti de moi en m'emportant.
Alejandra Pizarnik.
Alejandra Pizarnik.
Choix de poèmes et d'extraits du journal par Béatrice Leca. Les poèmes sont comme des silex, comme de la cendre. Le journal est un avertissement, un état des lieux, une des voies de la conscience. On ne sait pas ce qu'ils cherchent sinon la mort. Et sur le chemin de la mort, la poésie, la pensée fermée, l'irrespirable beauté, là où le désespoir, la folie et l'enfance sont enfermés et brillent. Dans les deux miroirs, le visage d'Alejandra Pizarnik apparaît et s'éloigne. Le journal dit une vie d'aventurière. L'aventure est presque tout entière dans la littérature, la langue, l'écriture et la lecture, l'apprentissage constant, le travail, l'acharnement à lutter contre soi-même ou au contraire à s'abandonner. Au bord, à côté, derrière, la folie, qui n'est pas toujours un ennemi. L'aventure, on le sait, la mène à la mort. Elle se tue à 36 ans. Les poèmes sont laissés là, des cailloux sur le sentier.
Pendule, très petite dame, habitante du cœur de l'oiseau, sors à l'aube pour prononcer une syllabe. Non.
Le 25 septembre 1972, Alejandra Pizarnik ingère une dose de psychotrope qui lui est fatale. Dans sa chambre, sur le petit tableau noir où elle inscrivait à la craie des ébauches de poèmes, on retrouva ses vers. Criatura en plegaria, rabia contra la niebla, escrito en el crepúsculo. Contra la opacidad, no quiero ir nada más que hasta el fondo. Oh vida, oh lenguaje, oh Isidoro. Septiembre de 1972. Créature en prière, en rage contre la brume, écrit au crépuscule. Contre l'opacité, je ne veux plus aller nulle part qu'au tréfonds. Ô vie, ô langage, ô Isidore. Septembre 1972. Alejandra Pizarnik.
Janvier 1959. J'ai laissé tomber la psychanalyse. Je ne sais pas pour combien de temps. Je vais très mal. Je ne sais pas si je suis névrosée. Ça m'est égal. J'ai simplement une sensation d'abandon absolu, de solitude absolue. Je me sens toute petite, une toute petite fille. Et tout le monde m'abandonne, absolument tout le monde. À présent, ma solitude est faite de chimères amoureuses, d'hallucinations. Je rêve d'une enfance que je n'ai pas eue et je me revois heureuse, moi, qui ne l'ai jamais été. Quand je sors de ces rêves, je n'existe plus au regard de la réalité extérieure et présente. Il n'y a jamais eu autant de distance entre mon rêve et mon action. Je ne sors pas, je n'appelle personne. Je purge une étrange pénitence. Mon cœur me fait funestement souffrir. Tant de solitude, tant de désir. Et la famille qui me tourne autour, qui me pèse avec ses horribles problèmes quotidiens. Mais je ne les vois pas. C'est comme s'ils n'existaient pas. Quand ils s'approchent de moi, je sens des ombres qui m'ennuient. En fait, presque tous les êtres m'ennuient. J'ai envie de pleurer. Je le fais. Je pleure parce qu'il n'y a pas d'être magique. Mon être ne tremble devant aucun nom, devant aucun regard. Tout est pauvre et vide de sens. Ne disons pas que je suis coupable de cela. Ne parlons pas de coupable. J'ai pensé à la folie. J'ai pleuré en implorant le ciel de devenir folle. Ne plus jamais sortir des rêves. C'est mon image du paradis. Je n'écris presque pas d'ailleurs. Il y a pourtant un désir d'équilibre, un désir de faire quelque chose de ma solitude. Une solitude orgueilleuse, industrieuse et forte. Étudier, écrire et me distraire. Tout ça seul, indifférente à tout et à tous. 15 janvier. Peut-être suis-je en train de devenir folle. C'est ce que je souhaite, en effet, je le souhaite autant que la mort. Je ferme les yeux et je rêve de folie. Être pour toujours avec les désirs les plus chers. Qu'ils aient pour nom paradis, ventre maternel, ou ce que le diable voudra. Loin. Loin de l'immonde cité, loin des villes où l'on achète et où l'on vend. Là, une petite fille nommée Alejandra apprendrait à sourire moins amèrement. J'ai pensé, à quoi bon désirer que mes angoisses disparaissent? Accepter la fatalité de certains êtres. Je suis né pour souffrir, c'est aussi simple que ça. Ça fait mal. Je veux étudier. Je veux apprendre. Je veux écrire. J'ai 22 ans. Je ne sais rien. Rien de fondamental. Je ne sais pas ce que j'aurais dû apprendre il y a longtemps. Personne ne m'a rien appris. Je sais, en revanche, ce que j'aurais dû savoir bien plus tard. D'où le fait que je me sente à la fois vieille et toute petite. 2 février. Je ne crois pas encore en ma mort. C'est pour ça que je suis une petite fille. Mon image du bonheur. Me consacrer à l'étude, écrire et aimer. Je ne peux pas aimer. Je n'aime personne. Je le voudrais pourtant. Je veux aimer un homme. Je crois que ce ne sera pas possible à cause de mon incapacité à aimer. 1. Je ne vois pas les autres, je me réfléchis en eux. Je puise mon image en eux. 2. Je ne sens que moi-même, c'est-à-dire mon... Aucun être ne me donne la mesure de ce que je cherche désespérément. Et quand je ressens ce mystère, c'est parce que cet être me nie. Il y a d'autres raisons. Mes complexes d'infériorité. L'idée que personne ne me prendra en charge par amour. C'est là une vision erronée. Il pourrait s'agir d'un amour mutuel dans lequel personne ne prend personne en charge. Dans lequel on a simplement deux êtres qui s'aiment et se soutiennent l'un l'autre. Mais mon infantilisme, mon horrible quête de la figure parentale, mon désir de me réfugier dans l'autre et d'être aimée comme une petite fille malade reviennent toujours. Je suis, par ailleurs, un être tellement fictif que mon physique récuse tout désir de protection chez moi. Personne n'a une apparence aussi solide et robuste que la mienne. Qu'on éloigne l'eau et le vin, que mon arrivée soit le signal précis de son éloignement, que ma bouche assoiffée soit le drapeau, le signe, la branche venimeuse, l'injonction ardente, l'heure, enfin, d'arrêter le déluge, de cacher les sources, de changer l'eau en charbon, le vin en cendre. Qu'on éloigne les fruits magiques, que les lèvres ivres ne trouvent qu'incandescence, que tu sois de soufre et ton corps de flamme sur un corps d'eau. Subitement, je ne suis pas née, ne suis pas morte. Le centre de l'ombre et l'ombre dans mon attente. Février. Une poésie qui dise l'indicible. Un silence. Une page blanche. Attention avec les mots, dit-elle. Ils sont aiguisés. Ils te couperont la langue. Attention, ils t'enfonceront dans la prison. Attention, ne pas naître aux mots. Allonge-toi dans les sables noirs, et que la mer t'enterre, et que les corbeaux se suicident dans tes yeux fermés. Fais attention à toi, ne tente pas les anges des voyelles. N'attire pas des phrases, des poèmes, des vers. Tu n'as rien à dire, rien à défendre. Rêve, rêve que tu n'es pas ici, que tu es déjà parti, que tout est terminé. Septembre. Je ne veux pas consigner mon état mental. J'ai feuilleté les œuvres d'Artaud et je me suis retenue de crier. Il y décrit des choses que je ressens très profondément. Ce silence menaçant. Cette sensation d'inexistence. Le vide intérieur. La lutte pour transmuer en langage ce qui n'est qu'absence ou cri. Il parle aussi de ces phases de bégaiement, la langue dure, l'asphyxie. J'ai aussi feuilleté un essai de Jung. Et j'ai eu peur d'être folle. Ou plutôt, un sentiment de désillusion m'a traversée. En effet, si je suis folle, pourquoi est-ce que je me plie aux conventions? Pourquoi ne suis-je pas plongée dans une sorte d'inconscience, de frénésie, de délire? Et si je ne suis pas folle, pourquoi ce silence en moi? Cette tension parfois interrompue par l'angoisse. Pourquoi l'anxiété et les pleurs? J'envie profondément Virginia Woolf. L'esprit humain est un mystère. Vendredi 23 octobre. Hier soir, j'ai fait des projets pour mon avenir très importants. J'essaie de placer toutes mes forces dans quelque chose. Dans quelque chose qui m'empêche de dormir 10 heures par jour, de manger par ennui, de lire des magazines, de souffrir à côté du téléphone parce que X ou Y ne m'appelle pas. J'ai essayé de me fixer un délai de 5 à 10 ans durant lequel je me consacrerai à une seule activité, un seul apprentissage. Il faut que je sorte de mon état actuel. Actuel. Ça fait 23 ans que je fais avec. Qu'est-ce qui me fait penser que ça va changer? En écrivant ça, je triche. Je crois que j'écris ça pour rompre le charme, pour qu'il cesse. Mais après tout, 5 ou 10 ans entièrement consacrés à une tâche, puis mon suicide, ce n'est pas un avenir négligeable. Je bégaye de plus en plus. Mais je ne sais pas s'il s'agit de bégaiement. Au fond, je n'ai pas envie de parler. Tout comme je m'alimente sans en avoir envie, compulsivement ou par peur du vide, je parle, en sachant que je devrais me taire. Ma souffrance, c'est l'autobus. Au moment de demander mon billet, j'ai peur que ma voix ne sorte pas et que les passagers ne regardent en se retenant de rire, stupéfaits, cet être monstrueux qui se débat et bataille avec le langage. Ma souffrance, c'est quand je suis au téléphone et que ne me vient pas la formule finale « au revoir » ou « à bientôt ». À la place, surgissent des sortes de râles inintelligibles qui anéantissent tout ce que j'ai dit précédemment et font de ma conversation antérieure une plaisanterie. Un simulacre. Quelqu'un qui pensait converser avec un être humain découvre même peut-être, soudain, par un détail final inattendu, qu'il n'y a pas là un être humain, mais quelque chose de mystérieux, d'ambigu, et d'assez répugnant dans son mystère. Ça serait pire si j'étais muette. Maintenant, je suis terrorisée à l'idée de devenir muette. Conte d'hiver. La lumière du vent dans les pins, ces signes de tristesse incandescente. Est-ce que je les comprends? Un pendu se balance dans l'arbre marqué de la croix lilas, jusqu'au moment où il a réussi à se glisser hors de mon rêve et à entrer dans ma chambre. Par la fenêtre, avec la complicité du vent de minuit. Mardi, 27 octobre. Je suis de plus en plus obèse. Enfin, c'est comme ça que je le vis. Je suis allée voir le docteur R. « Vous êtes anormale, m'a-t-il dit. « Comment ça ? » ai-je répondu. « Je veux dire par là que vous avez un problème de glande, » a-t-il dit. « À présent, je dois prendre des capsules qui m'affectent les nerfs. » J'ai découvert ma tendance à parler de thèmes obscènes en les traitant avec humour. Je laisse entendre, par exemple, que je participe à de formidables orgies sexuelles. Ça doit être une façon de cacher ma chasteté, forcément inévitable ou bien forcée, ou autre chose encore. Ou bien de prouver que je suis absolument hétérosexuelle, puisque mes vêtements bohèmes et ma voix rauque peuvent faire penser à l'homosexualité. Une chose est sûre, je parle comme une dévoreuse d'hommes. Moi, la pauvre petite. La pauvre petite doit maigrir. C'est urgent. Mon Dieu. Ça me dégoûte de plus en plus de me regarder dans la glace. Je ne fais rien. Nuit du cœur. Automne dans le bleu d'un mur. Sois la protection des petites mortes. Chaque nuit, dans la durée d'un cri, arrive une ombre nouvelle. Tout esselé danse la mystérieuse autonome. Je partage sa peur d'animal très jeune durant la première nuit des battues. Décembre. J'irai à Paris. Je m'en sortirai. Tristesse récente. Je n'avais personne à qui communiquer ma joie de partir. L'angoisse à présent. Rien que l'abandonner à présent. J'aimerais être avec Olga et Lénita. J'aimerais que quelques personnes passent. J'aimerais boire du vin et être gaie. Je ne suis pas une adolescente, je suis une enfant. À mon âge, je suis une enfant. Une enfant qui a peur de jouer. Une enfant sans l'innocence des enfants. Ou bien peut-être suis-je une petite vieille ramollie. Je préfère ça. Janvier 1960, vendredi. Qu'il me soit donné, cette année, de vivre en moi-même, de ne plus divaguer ou d'être une autre. Qu'il me soit donné d'être sage et de ne pas chercher l'impossible. Juste la magie et l'étrangeté du monde où j'habite. Et qu'il me soit donné de m'intéresser au monde. 3 janvier. Je suis en train de me détruire à force de cigarettes et de nourriture. Mon corps n'en peut plus. Crise d'hier. Asphyxie. C'est le prix à payer après avoir vendu ma vie au démon des rêves. Hier, je me suis vraiment rendu compte que je flotte comme un fantôme. Je ne participe de rien. Je fuis la loi de la vie, ses lois, le destin personnel. La petite voyageuse mourait en expliquant sa mort. Des animaux savants et nostalgiques visitaient son corps chaud. Dimanche 18 décembre, Paris. Nuit cruciale. Nuit dans sa nuit. Ma nuit. Mon importance. Moi-même. L'asphyxié aime l'absence d'air. Mémoire d'une naufragée. Rêve de naufragée. De quoi peut rêver une naufragée sinon de caresser le sable de la berge? J'ai peur. Aujourd'hui, je me suis réveillée avec l'envie d'écrire et je ne l'ai pas fait, voici pourquoi. Où vas-tu mettre tous ces papiers? La pièce est petite. Pourquoi remplir des feuilles si après ça le désordre croît, le nombre de papiers croît? Mardi, 8h du matin. Hier soir, j'ai réfléchi aux moyens que je vais utiliser pour me suicider. Mercredi 21. Je me réveille en souriant après une nuit infernale. Comment le comprendre? Hier soir, j'ai relu mes poèmes et j'ai pensé qu'ils ne valaient rien. Et moi, seule avec mes voix. Et toi, tellement de l'autre côté, que je te confonds avec moi. Mars 1961. Rien, ni personne en moi n'ose jamais bouger, tourner, rouler. Rien ne se met jamais en mouvement. Rien n'ouvre jamais la bouche, si ce n'est pour mordre en silence. J'ai éprouvé douleur et silence. Je souffre ou je me tais. Être bien, c'est être comme une statue. Souffrir, c'est voir une couleur blanche qui court vers des chutes ardentes. Ou bien, comme dans un film muet, le tigre qui dévore lentement la jeune fille. Je ne suis qu'une silencieuse, une statue cœur-esprit malade. Une orpheline sourde et muette. Fille de quelque chose qui s'agenouille et de quelqu'un qui tombe. Je ne suis que quelque chose qui est. Quelque chose que je n'attends pas et qui est. 26 mai. Comme les cris d'un tout petit enfant qui ne veut pas. Qui ne veut pas mais qu'on oblige. Mais il crie et tend son corps. Le raidit parce qu'il ne veut pas, il ne veut rien, il ne veut rien du tout. Avec son petit corps qui refuse, avec son angoisse féroce qui est là pour l'aider à crier. Aujourd'hui, de la même façon, avenue de l'Opéra, j'ai soudain senti que je ne voulais pas. Et je me suis quasiment jetée par terre en me convulsant pour le dire à tout le monde. Je ne voulais pas, avec une fureur inégalée. C'est pour ça que je ne me suis pas détendue, que je n'ai pas essayé de mieux respirer. Dès que je retrouvais un peu d'air, je le refusais. Pour une fois, ai-je pensé, tu dois être fidèle à ton malheur. Pour une fois, tu vas cesser de te trahir. Et je n'ai accepté aucune échappatoire. J'ai au contraire épousé le rythme de mon angoisse, la meilleure fuite possible. J'avais l'impression de vivre, d'exister. Je ressentais ça d'une façon étouffante. C'était un peu comme si je me réveillais au milieu d'une orgie après avoir dormi pendant 3 semaines. Pourtant, au beau milieu de ma terreur se trouvait encore cette petite peur de perdre l'intensité de ma souffrance. Si mon angoisse m'abandonne, ai-je pensé, je suis perdue. Alors je me tendais, je me contractais pour que mon angoisse ne m'abandonne pas, puisqu'on m'a laissée avec elle alors qu'elle ne parte pas, qu'elle reste elle au moins. Mais inconsciemment, je laissais passer l'air. Les visages étrangers m'attiraient et je me suis même vue en train de conjecturer sur la vie de certains passants. Et puis soudain, je me suis mise à respirer normalement. J'ai su alors que l'abandon était cette fois définitif. Et c'est encore la vie.
La cage. Dehors, il y a du soleil. Ce n'est qu'un soleil, mais les hommes le regardent et après ils chantent. Je ne sais rien du soleil. Je sais la mélodie de l'ange et le sermon brûlant du dernier vent. Je sais crier jusqu'à l'aube lorsque la mort se pose nue sur mon ombre. Je pleure sous mon nom. J'agite des mouchoirs dans la nuit. Et des bateaux assoiffés de réalité dansent avec moi. Je camoufle des clous pour bafouer mes rêves malades. Dehors, il y a du soleil. Je m'habille de cendres.
Samedi, 12 mai 1962. Hier soir, j'ai trop bu parce que j'ai dîné avec des imbéciles, des architectes et leurs petites femmes, qui ont parlé d'avions et de services militaires dans tous les pays du monde. C'était des types de 24 à 30 ans. Je déteste les gens jeunes, sérieux et studieux, ayant un avenir ouvert et de pitoyables désirs d'automobiles et d'appartements. Les seuls jeunes que je tolère sont les bigles, les boiteux, les poètes, les homosexuels, les veufs inconsolables, les frustrés, les obsédés, qu'ils soient comtes ou mendiants, communistes ou monarchistes, femmes, hommes, androgynes ou castrés. 26 juin. Je veux écrire des contes. Je veux écrire des romans. Je veux écrire en prose. Mais je ne peux pas raconter, je ne peux pas détailler. Je n'ai jamais rien vu. Je n'ai jamais vu personne. Peut-être devrait-on m'obliger à voir, m'obliger à exprimer fidèlement ce que je vois. La poésie me disperse. Elle me dégage de moi-même et du monde. Raconter au lieu de chanter, je ne sais pas. C'est un peu comme le crayon magique dont je rêvais quand j'étais petite. Un crayon qui saurait multiplier et diviser tout seul. À présent, j'aimerais écrire des romans dans le style le plus réaliste et le plus traditionnel qui soit. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'un roman comme ça est un véritable acte de création. Car la poésie, ce n'est pas moi qui l'écris. 23 juillet. C'est l'aube. Tout
tout ce qui a un nom abandonne mon regard. Je suis dans ma chambre, exposée à l'intempérie. Une mélodie jamais entendue m'emplit du pressentiment de la beauté parfaite. Pourquoi maintenant cette rencontre heureuse avec l'instant ou le néant ? Les pas perdus. Avant, ce fut une lumière dans mon langage qui est né à deux pas de l'amour. Nuit ouverte, nuit présence.
Ich steh wie ein Bettler bei Edwiden Teuer und bettel a bissele Sohn. Frühling, nimm zu mein Teuer und bring mein Liebsten, mein Treuen zurück. Frühling, heute fliegen Blühe, heute nehm mein Herz mit und bringen zu mein Glück.
Rencontre. Quelqu'un rentre dans le silence et m'abandonne. Maintenant la solitude n'est pas seule. Tu parles comme la nuit, t'annonces comme la soif. 1er août. Emplis le vide de ta vie avec ta mort. Arrache-toi à toi-même. L'été, la chaleur en train de te dévorer, de te pourrir. Emplis le vide de tes nuits avec ton soleil. Cette pitié sans motif, cet amour sans objet, porté comme un objet précieux alors qu'il est irrespirable. Emplis le vide de tes mots avec ton silence. J'aurais voulu pleurer infiniment. Une absence qui, je le sais, pèse dans cette impossibilité de désirer. Puissais-je faire silence en moi et me laisser envahir par ce qui voudra m'envahir? Mais je suis tellement envahie que plus rien d'autre ne peut m'envahir. Je comprends la nécessité de me distendre. Il y a un moment, j'étais sur le boulevard Saint-Michel. J'ai vu un homme noir, merveilleusement habillé, avec une tunique bleu ciel, couverte de médailles et de bijoux. Je lui ai souri, car sa présence, sa soudaine vision, m'a fait oublier mon obsession du jour, d'hier, de toujours. La vision de cet homme m'a tellement absorbée qu'une voiture rouge a freiné à quelques centimètres de ma petite personne. J'ai continué à sourire, cette fois au conducteur, et lui aussi a souri, car il m'avait vu émerveillé devant l'homme en bleu. Ça m'a plu que c'était une voiture rouge, car à présent, et plus que jamais, seules les couleurs pures m'enivrent. Maintenant qu'il fait si sombre en moi et que j'ai si peur. août, Saint-Tropez. Zone initiale d'effroi et de frissons. Dès que tu bouges, ton corps s'en va. Terrible et immuable certitude d'être de trop dans l'endroit où les autres respirent et expriment avec aisance et tendresse leur goût humain, leur patiente création affective et matérielle. De moi, je peux dire que je ne dors ni ne veille. Rage dans ma mémoire, colère et impatience, cherchant un dénouement moins tragique que mon silence. J'écris comme si j'étais derrière une vitrine,
Les gens m'observent. J'ai honte d'écrire. Comme j'ai honte à tout instant de m'asseoir sur une chaise et de regarder le ciel. Cette blessure ne guérira jamais, en dépit de toutes mes prières. Horreur de ma tragicomédie. Je sais, je vois, j'ai froid. Joie féroce que la mienne quand je trouve une image qui l'exprime. Une métaphore, un mot. Chaque fois qu'il y a du langage à la place du silence, je suis contente et je dirais presque que j'ose regarder le ciel dans un fauteuil en me balançant doucement, en suivant ma respiration difficile qui n'ose pourtant pas s'abandonner à son rythme. 7 septembre. Nuit d'insomnie. J'ai pensé au langage avec tristesse. Pourquoi est-ce que j'écris ? J'ai répondu par cette scène imaginaire. Je vis au Tibet, seul, dans une cabane. Je ne parle jamais avec personne puisque j'ignore la langue de mes voisins. Écrire est ma plus grande ingénuité. C'est comme vouloir contenir ce qui déborde. Dans mon cas, c'est le rêve, le silence, maîtrise surveillée. Écrire dès lors pour défendre tout cela, pour mériter mon espace silencieux. Ces eaux qui brillent dans la nuit. Ces mots tels pierres précieuses, dans le gosier vivant un oiseau pétrifié. Ce vers tant aimé, ce lilas chaud, ce cœur qui seul est mystérieux. Dimanche, 1er décembre 1963. Sans que personne ne le corrobore, je commence à avoir confiance dans mes capacités littéraires. A m'a dit que mon problème pour manier les verbes vient de mes origines juives. Mais samedi, je me suis entendue m'exprimer dans une langue littéraire. A m'écoutait avec un certain étonnement. Tout ça est très lié aux exercices de relaxation. Si j'arrive à dénouer ma gorge, c'est-à-dire à respirer harmonieusement, ma relation avec le langage, jusqu'à présent si compliquée, changera. Mais ça fait déjà 2 ans que je l'ai fait, ces exercices, et ma poitrine, ma gorge restent toujours sur leur stupide position défensive. J'ai la sensation qu'une main de fer m'oppresse à ces endroits. C'est curieux. Pour se détendre, il faut juste s'abandonner, cesser de se retenir. Bien sûr, l'horreur de la chute, la peur de la dépossession totale. J'ai dit peur et la voici. Elle me serre horriblement.
Les yeux ouverts. Quelqu'un mesure en sanglotant l'étendue de l'aube. Quelqu'un poignarde l'oreiller en quête de son impossible place de repos.
6 mars 1964. Vendredi. Buenos Aires. Je cherche une forme définitive. un style simple et correct pour dire les choses. Ça m'énerve. C'est comme l'impossibilité de trouver un stylo qui s'adapte exactement au mouvement de ma main. Parfois, je crois l'avoir trouvé, mais en fait, je ne l'utilise que très peu de temps. J'ai le même problème avec les cahiers, avec les feuilles de papier. Mon désir est inhumain. Je cherche une continuité absolue. La seule chose continue en moi est ce désir d'impossible continuité. À présent, je me rappelle que même mon style oral n'est pas toujours identique. Je change de voix, je change de lexique, je change d'accent. Je me souviens de ma période mexicaine à Paris. J'aimais bien accentuer les mots autrement. Je suis anormalement fragmentée. D'où mes petits poèmes. L'avortement est mon emblème au bord mordu. Tout ça peut très bien dériver de l'impatience. Impossible d'aimer la tâche présente. Perpétuel désir de fin fracassante, mort et résurrection. Non pas l'avortement, mais le suicide. Seul l'intérêt soutenu, présent, sauve. C'est tout au moins ce qu'on dit. Je n'ai pas le temps. Quelque chose me presse toute la journée. Quand rien ne me presse, alors rien ne se passe. Je suis une morte.
Forme. Je ne sais si oiseau ou cage. Main criminelle. Ou jeune morte entre cierges. Ou Amazone palpitante dans la grande gorge obscure. Ou silencieuse. Mais peut-être orale comme une source. Peut-être jongleur. Ou princesse dans la plus haute tour. Communication. Le vent m'avait dévoré une partie du visage et des mains. On m'appelait l'ange en haillons. Moi, j'attendais.
Le 27 avril 1966. Mort interminable. Oubli du langage et perte des images. Comme j'aimerais être loin de la folie et de la mort. Je vis une heure après l'autre en regardant l'horloge. Et à qui demander? Pas envie d'avoir envie. Je ne veux rien demander à personne. On a éteint la lumière en moi. Pas complètement, puisque je souffre. La mort de mon père a fait du mal à ma mort. Terreur de marcher et de bouger. De manger et de respirer. Je m'étouffe toute seule. Je n'éprouve un peu de paix que la nuit, quand je lis, oublie et me perds, loin de moi-même, loin aussi du livre que je lis. Et l'espoir dans la littérature? Il en reste encore vaguement quelque chose, mais je ne sais pas quoi dire, ni comment, ni pourquoi. 8 juin. Quand a commencé cette hâte? Essaie de te rappeler, vite. Quand donc a commencé cette urgence à arriver nulle part, dès que possible, ou à ne rater aucun rendez-vous. Je suis en train de composer un poème que je crois avoir rêvé. D'où viendra la révélation ou la petite musique qui te fera sentir, un jour peut-être, qu'être sur terre est une belle chose? J'attends qu'elle vienne de moi. C'est pourquoi elle ne viendra pas et ne résonnera pas.
Voix, rumeur, ombre, chant de noyer. Je ne sais pas si ce sont des signes ou une torture. Quelqu'un dans le jardin retarde la marche du temps. Et les créatures de l'automne abandonnées au silence. J'étais prédestinée à nommer les choses avec des noms essentiels. Moi, je n'existe plus et je le sais. Ce que je ne sais pas, c'est ce qui vit à ma place. Si je parle, je perds la raison. Je perds les années si je me tais. Un vent violent a tout rasé. Et ne pas avoir pu parler pour tous ceux qui ont oublié le chant.
19 février 1968. Ce qui est intérieur, sous-jacent, est toujours sinistre. Aujourd'hui, je me suis réveillée et je me suis répété une seule phrase. Il y a ici quelqu'un qui tremble.
Je pleure. Je regarde la mer et pleure. Je chante un peu, très peu. Il y a une mer. Il y a la lumière. Il y a des ombres. Il y a un visage aux traits de paradis perdu. J'ai cherché, sauf que j'ai cherché, sauf que j'agonise.
13 février 1971. Apparemment, c'est la fin. Je veux mourir. Je le veux très sérieusement. C'est une vocation absolue. 9 octobre. Ça fait 4 mois que je suis internée à l'hôpital Pirovano. Il y a 4 mois, j'ai essayé de mourir en ingérant des cachets. Il y a 1 mois, j'ai voulu m'intoxiquer au gaz. Les mots sont plus terribles que je ne le pensais. Mon besoin de tendresse est une longue caravane. Quant à l'écriture, je sais que j'écris bien, c'est tout. Mais ça ne fait pas qu'on m'aime. Dire que tu m'as abandonné serait injuste. Mais qu'on m'abandonne et que parfois on m'a terriblement abandonné, c'est certain. Kafka. November 21, dimanche. Dimanche dernier, j'ai essayé de me pendre. Aujourd'hui, je n'arrête pas de penser à la mort par noyade. Rien ne me ferait plus de bien que de voir renaître. Un titre. Le lieu perdu. folle chienne. Mercredi 10, je suis sortie de l'hôpital Pirovano où je suis restée 5 mois. Novembre 1971. Écrire, c'est donner du sens à la souffrance. J'ai tellement souffert qu'on m'a déjà chassée de l'autre monde. Écrire, c'est vouloir donner un sens à notre souffrance.
Alejandra Pizarnik. Choix de poèmes et d'extraits du journal par Béatrice Leca. Dit par Julie Denis et Erwan Ricordo à la contrebasse. Avec les voix de Joaquina Belandé et Christine Cullerier. Prise de son, montage et mixage, Pierrick Charles et Sylvain D'Angoise. Assistante à la réalisation, Chloé Mauduit. Réalisation, Juliette Eman. Les passages du journal sont extraits de Journaux 1959-1971, traduction d'Anne Picard aux éditions José Corti. Les poèmes sont extraits d'œuvres poétiques, traduits par Sylvia Baron-Supervielle et Claude Couffon aux éditions Actes Sud.
El escriba ha desaparecido. Señalo el sitio vacío donde los muertos se divierten. La noche penetrando y el glande inflado de tinta penetrando. Hacen el mismo ruido que la muerte penetrando. Asisto a su duración en lo instantáneo. Silencio desorbitado. Su fiesta en lo opaco, en lo pleno, en lo plano. La atención lleva un blanco en la frente, lleva una capa negra de lirones despiertos. Es la época en que la muerte entra en muda, mudo mi cuerpo. Yo me impongo en tu muerte, yo guarezco tu muda.